Et je vais donc commencer l'étude par les premiers versets de la paracha de Shoftim. Nous avons la référence. C'est à partir du verset 18 du chapitre 16. Mais je voudrais quand même, parce que chaque année j'ai le même problème, étant donné l'interruption des cours jusqu'au fait, nous n'avons jamais d'indications, enfin d'enseignement concernant les différentes parachios. De Kitetsé, Kitavo, jusqu'à la fin de Dvarim, avant cela. Après, je vais prendre quelques moments pour étudier au moins un texte des parachiotes qui sont jusqu'à Rochelin et étudier un peu, déjà en préparation, quelques questions sur la Teshuva. Bon, je vais traduire tout cela pour, au fur et à mesure de l'étude, pour ceux qui ne suivent pas en hébreu. Alors, je vais choisir cette année un certain nombre de questions que les commentateurs ont posées sur ces versets. Mais au fur et à mesure de l'étude, si malgré tout vous tenez à ce qu'on étudie tel ou tel commentaire que vous connaissez d'autre part, vous me le signalez. Alors, je prends le texte à partir du chapitre 16, verset 18. Vous y êtes ? Alors, je lis en hébreu et en français directement. Vous arrivez à m'entendre quand même ? Bien que ça va. Alors, Shoftim et Shotrim, littéralement, c'est des juges, et Shotrim, des policiers. Enfin, littéralement, Shofet, c'est un juge, là, la traduction est assez aisée. Shotrim, c'est des... Le mot de Shoter en hébreu a été gardé en hébreu moderne pour dire un policier, mais littéralement, ça veut dire un gardien. Ceux qui sont préposés à la surveillance de l'ordre dans la cité. Je crois que dans l'ancien français, il y avait une expression, c'était les sergents de ville, ou monsieur Oukazé. C'est ça ? C'est comme ça qu'on disait. Il y avait des chevrotes, des confréries, qui étaient chargées par le roi de maintenir l'ordre dans la cité. Est-ce qu'à leur tête, il n'y avait pas ce qu'on appelait un prévôt, monsieur Oukazé ? Ça vous dit quelque chose ? Oui. Alors, c'est rare ? En tout cas, c'est ça, les Shotrim. En araméen, Shotrim, c'est Netourim. Neture Karta, c'est de l'araméen, c'est les gardiens de la cité. Ça veut dire les policiers. Regardez l'humour du langage. Quand il y a une manifestation de Neture Karta, en fait, c'est eux les policiers. C'est pas les Shotrim, c'est les policiers. Bien. Et nous allons, je finis le verset, ensuite on reviendra sur un ou deux mots. Titen Necha, tu placeras pour toi Bechol She'arecha. Littéralement, ça veut dire dans toutes tes portes. Mais en fait, She'arecha renvoie à la notion des portes de la ville. Les portes, comment on dit les portes de la maison ?
Delet.
Delet. Non, gaffe. Comment dans le Kriyat Shema on dit les poteaux de. La mezouza est mise sur le poteau qui s'appelle non dans le texte du Kriyat Shema. C'est pas des questions pièges, c'est des sondages pour savoir si vous voyez la différence des mots. Urtaptam al betecha ou bishalecha. Et dans ce verset, bishalecha, c'est les ports de tes villes et pas les ports de la maison. Mais la mezouza, c'est j'ai oublié le mot en français. Le mashkof, c'est le fronton.
En haut, c'est
le lento. Lento, c'est mashkof.
C'est les poteaux.
Alors, les poteaux, oui. C'est comme ça qu'on appelle les poteaux ? Non.
Les montants.
Les montants. Les montants, bon, vous voyez qu'on a oublié le français. Mais vous comprenez un peu l'idée. Hein ? La mezouza se met sur le montant. Bon, là, je ne veux pas ouvrir de parenthèse. Les Ashkenazim et les Sfaradim n'ont pas exactement le même rite pour mettre la mezouza. Mais dans tous les cas, moi en tout cas, je fais partie d'un rite Sfarad où on fait un peu comme les Ashkenazim. La mezouza ne doit pas être droite. Elle doit être inclinée vers l'entrée de la porte, vers l'entrée de la chambre, de la pièce. Parce que j'ai remarqué que des Sfaradim de rite Babli ont l'habitude de mettre la mezouza droite. La halakha n'est pas comme ça. Elle est comme les Ashkenazim. La seule différence avec les Ashkenazim, c'est que les Ashkenazim tiennent à la mettre assez haut. Alors, en réalité, il faut la mettre exactement au tiers de la... Ça y est, c'est clair ? Bon. J'ai visité beaucoup d'anciens quartiers juifs dans beaucoup de villes du monde entier, et en particulier dans la ville de Jérusalem quand on est arrivé en 67. Mais je vais vous raconter ce que j'ai vu dans un quartier d'une toute petite ville du Portugal qui s'appelle Belmonte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur la dernière communauté des... C'était extrêmement émouvant, des maranes du Portugal. Et alors je suis allé pour l'inauguration, enfin la pose de la première pierre de leur futur synagogue. Et d'ailleurs c'était assez extraordinaire parce que au moment où ça s'est su dans le gros village, c'était pas une ville, c'était un gros village, que des juifs de Jérusalem étaient là, c'est sorti de partout de la région des maranes qui étaient camouflés depuis des siècles et qui sont venus nous dire « Je suis d'origine juive et d'ailleurs vous allez venir chez nous voir la trace de la mezouza ». Et effectivement, on a vu dans les... c'était creusé dans le linteau, dans la pierre, pas le linteau, enfin bref, dommage. C'était creusé comme ça, la place de la mezouza. C'est assez extraordinaire, on a pris des photos, bien sûr. Mais on avait retrouvé ça dans les maisons juives de la vieille ville arabe, tout le Rova Yehudi, en 67. Bon, alors je continue. Chez Harim, dans le vocabulaire de la Bible, les portes, c'est les portes de la ville. Parce que c'était la coutume dans toutes les civilisations de l'Antiquité que chaque ville avait un tribunal qui siégeait aux portes de la ville. Probablement, je dis probablement parce que je n'ai pas de source à vous citer, parce que s'il y avait des contestations juridiques avec des étrangers qui arrivaient dans la ville, ça se faisait au tribunal à l'entrée même de la ville. Un peu à la manière dont, comme vous savez, vous savez la raison pour laquelle lundi matin, le jeudi matin, on lit le Sefer Torah, c'est parce que c'était les jours de marché. Et lundi matin, jeudi matin, c'est les jours de marché, il y avait le rassemblement de la communauté de tous les petits villages autour de Bourgade qui venaient au marché ce jour-là. Et par conséquent, tous les litiges qu'il y avait étaient amenés devant le tribunal rabbinique le lundi ou le jeudi matin. Alors on en profitait pour faire un office public pour tout le monde et on lisait la Torah. Vous saviez ça? Vous ne savez pas? Alors c'est là vient le fait que quand on déplace un Sefer Torah d'un endroit à un autre, il faut lire au moins trois fois dans l'endroit où on le déplace. Le Shabbat après-midi, le lundi et le jeudi. C'est à cause de ces trois fois. La lecture officielle, c'est le Shabbat matin. Mais il y a trois fois en plus dans la semaine, c'est le Shabbat après-midi, le lundi et le jeudi. Le Shabbat après-midi, à cause de ceux qui n'avaient pas pu arriver le Shabbat matin, on venait à pied. De ce qui entourait les... Vous savez qu'il y a une distance de 2 km et quelques, on n'avait pas besoin de faire le Shabbat. Mais il y avait des gens qui habitaient dans les banlieues, comme on peut dire, dans les faubourgs. C'était extrêmement dangereux à l'époque. La nuit, ils ne voyageaient pas, ils venaient le matin à pied. Et s'ils n'arrivaient pas le matin, on leur lisait au moins la Torah l'après-midi. C'est clair, je ne reviens pas. Tout le monde l'a compris, je ne reviens pas. Donc... Alors voilà, ici l'enseignement c'est que chaque ville doit avoir son tribunal. Et en fait, il y a différentes hiérarchies de tribunaux, les tribunaux de 3 juges, 7 juges, 21 juges, et le tribunal suprême c'est 71 juges, mais chaque ville et chaque tribu devait avoir sa hiérarchie de tribunaux à elle. Ça nous avons étudié une fois à propos d'un tout autre texte, parce qu'il doit y avoir une connaissance. Comment dire ça en français, une connaissance personnelle, je dirais presque anthropologique, des plaideurs que le juge a à juger. On ne peut pas faire juger un plaidoyer, comme on dit, un procès de Bercheva par des juges de Khedera, ou un procès de Marseille par des juges de Strasbourg. Parce que le juge, ne connaissant pas l'intimité psychologique du cas qu'il a à juger, risque de donner un verdict faux pour ce cas-là, bien que ce même verdict serait vrai pour ses propres paroissiens. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Malheureusement, on est déjà dans un stade où il y a une sorte de légalisme commun à tous de la juridiction qui fausse, nous verrons d'ailleurs ça plus en détail, qui fausse l'objectif de justice qu'il y a dans l'instance juridique. Il y a un décalage entre la légalité de la loi et la moralité de la loi qui, elle, est la vraie justice. Alors il y a un emploi du mot de la justice pour dire les tribunaux, pour dire la juridiction, qui est abusif. Quand on dit, et puis quand c'est utilisé par la propagande politique, vous êtes contre la justice de votre pays, alors qu'en réalité on est contre une interprétation de la légalité. Je sais pas si c'est clair. Contre un légalisme. Dans les anciennes sociétés, notamment du Moyen-Âge, il y avait un droit coutumier qui changeait de province en province, qui changeait de village en village. Et c'est la véritable justice, parce que ce sont les juges qui connaissent l'identité, le profil d'identité des cas qu'ils ont à régler. Alors vous voyez que la Torah le prévoit. C'est-à-dire des tribunaux, il faut dans chaque ville. Et ça veut dire quoi? On nomme pas dans une ville un juge qui vient d'une autre ville. Vous voyez comment c'est formulé. Titen, lecha, bechol, sha'alecha. Ça indique l'identité de chacun. C'est clair jusque-là. Je suis en train de vous faire, en filigrane, une critique du juridisme de la société israélienne contemporaine, que je vais amplifier d'ailleurs tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une tendance au juridisme qui est copiée des sociétés de droit romain et qui est extrêmement dangereuse. Au nom de la légalité, on aboutit à ce que la justice est une contre-justice. Vous avez compris la différence du sens des mots, justice et légalité. Est-ce que c'est clair? Donc, on dit Medinat Hok. Il faut dire Medinat Tzedek. C'est très différent de Tzedek et Hok. Vous avez compris ça y est, c'est clair. Donc, Asher Hashem Elokecha Notenecha, que Hashem ton Dieu te donne, Nishbatecha, selon tes tribus. Veshaftu et Aham, Mishpat Tzedek. Et ils jugeront le peuple d'un jugement de justice. Vous voyez comment le verset est clair et qu'on ne peut pas tricher. Pas tout mishpat et mishpat tzedek. Il faut que le mishpat soit compatible avec le tzedek. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors le mot tzedek, je vais vous donner rapidement le sens étymologique, c'est ce qui tombe juste, ce qui est en justesse avec la norme. C'est ça, tzedek. Je préfère le substantif, d'abord, pour éclairer le sens du mot tzadik, le substantif de justesse en français, qui est la porte du substantif de justice. La justice, c'est la justesse en morale. Mais il y a d'abord une conduite de justesse que connaissaient, je pense aux compagnons des confréries d'ouvriers dans le Moyen-Âge. Les compagnons de ces confréries d'ouvriers, c'est comme ça qu'on disait en français, en France, étaient considérés comme des tzadikim, des justes. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient juste, dans le sens de la justesse. Un compagnon ne trichait pas à son patron, il ne trichait pas avec son métier. C'est pourquoi c'est des confréries mystiques, authentiques. Hein. Et c'est quelque chose qui s'est perdu depuis le petit père Combes, vous voyez de qui je parle, depuis la laïcité en France, pour parler de la culture française, mais qui revient de notre temps. Je pense à partir de Vichy. On a reconstitué des confréries de compagnons et travail famille patrie. Et il y a aujourd'hui des compagnonnages dans différents métiers déjà en France. Et effectivement, j'ai rencontré plusieurs membres d'entre eux. Ils ont un souci d'ordre moral au moins aussi important que leur souci d'ordre du métier. Est-ce que l'idée est claire, hein? C'est la notion de hevra dans la société juive. Il y a des hevrot pour tel ou tel conduite dans la société. La Hevra Kadisha, bon, c'est un cas particulier, je ne rentre pas dans les détails, mais aujourd'hui, à la place des Hevrot, il y a quelque chose, aujourd'hui, depuis le temps du Talmud, d'ailleurs c'est condamné par le Talmud, qui se substitue à la Hevra. Les Haverim sont vraiment des initiés à une certaine confrérie. Il y a les Kranot, il y a les comités. Et l'expression Yosheve Kranot, ceux qui siègent dans les comités, c'est quelque chose de très très négatif dans l'enseignement du Talmud. C'est la définition même de la perte de temps. Anachnu, je vous cite une phrase du Talmud, les Talmud Achamim, qui font partie d'une Hevra de Limoud, d'une confrérie d'études, disent Anachnu Yoshvim Echay Olam Haba, nous sommes assis en vue de la vie du monde à venir, et eux sont Yoshvei Kranot. Ils se réunissent, d'ailleurs ils se réunissaient dans le chouk, dans le marché. Vous savez, dans les gargotes des marchés, on se donne rendez-vous pour traiter les affaires du pays. Vous connaissez ces choses-là. Quand on lisait ça en France, les stratèges de café, ou je les appelle.
La
vie
du commerce.
Oui, c'est ça. Je vais écrire. Il y a une prière d'ailleurs, une allusion dans la prière du matin, que notre sort et celui de nos enfants soit avec les haverim d'une chevra et pas avec les Yosef et Kranot. J'avance. Veshavshot ha'am mishpat tzedek. Alors, on va voir quelques indications de Rashi à ce sujet, mais d'abord, je vous pose une question très simple. Perdons pas trop de temps. Réagissez ceux qui peuvent réagir. Est-ce que j'ai besoin de savoir que pour organiser une société, il faut des juges et des policiers? Oui, le chidouche. Qu'est-ce que la Torah m'enseigne ici? Vous avez compris? J'ai besoin d'une révélation pour me dire qu'il faut des juges et des policiers pour gérer un pays, pour gérer une cité. Quel est le chidouche? Vous comprenez le sens de ma question? Quelle est la chose nouvelle que je ne saurais pas par moi-même que la Torah m'enseigne ici, dans la manière dont elle s'exprime, pour me parler de quelque chose qui est une évidence? Il y avait d'abord ce qu'on a appris, c'est qu'il faut que ce soit pour chaque ville, chaque tribu. Mais ça, c'est à la suite du verset. Au début, Shoftim Veshotrim, Azma, Pshita.
Les juges avant les policiers.
Il a fait, c'est l'ordre. C'est Shoftim d'abord, Shotrim ensuite. Il faut d'abord que la prérogative soit donnée au juge et que la police soit soumise à la juridiction. Alors que dans une société où le ministre de la police a plus de pouvoir que le ministre de la justice, c'est une société perdue. Et c'est le cas d'ailleurs dans le gouvernement israélien actuel. Vous savez que Chachal est beaucoup plus fort au gouvernement que l'Ibaï. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est-à-dire, c'est...
On ne parle pas tellement de
l'Ibaï.
Effectivement, on ne parle pas tellement de l'Ibaï.
Non, oui. Non seulement ça, les juges décident d'après les intérêts de la police. Et c'est une catastrophe. Bon, ça je vous le cite parce que ça fait des années qu'on connaît ce problème. Et ce n'est possible d'ailleurs au gouvernement actuel que parce que le chef du gouvernement a un mépris total de la juridiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ok? C'est une espèce de bolchevique attardé. Mais ça c'est effectivement connu. Okay? Chaque fois qu'il y a une injure à la justice à commettre, il ne se gêne pas. J'ai encore appris à la radio aujourd'hui que ce fameux procès qui dure déjà depuis des années et qu'on repousse et qu'on repousse et qu'on repousse, alors que le ministre de la Justice s'est énervé plusieurs fois et a fait appel à la Haute Cour de Justice pour qu'elle intervienne, eh bien, le procès va encore être retardé avec les stratégies des huîtres et les plaideurs, enfin, des avocats, ben, bref. Bon, je ne rentre pas dans les textes, je ne prendrai trop de temps, mais vous voyez de quoi je veux parler, hein? C'est-à-dire, lorsque le pouvoir politique, à travers la police, prend le pas sur le pouvoir juridique qui devrait être indépendant, il y a une catastrophe du point de vue de la moralité de la société. Prenez le commentaire de Rashi sur Shoftim et Shotrim, le premier. Nous allons avoir une première confirmation de cela. Alors, le thème général de ce que je viens de citer, c'est qu'il y a une différence entre la justice et la légalité, le fait de les confondre, je crois que c'est le drame des sociétés de droit romain. Mais la notion de droit qui prime la notion de justice. Et la notion, regardez le piège du langage. Parce que le droit, ça veut dire qu'on cherche la voie droite. Mais le terme de droit, dans le sens technique, signifie la légalité, et non pas du tout la voie droite dans le sens moral. Est-ce que c'est clair, hein? Je connais énormément d'avocats qui ne se cachent pas pour avouer cela, hein? Ils sont spécialistes du droit pour savoir comment tourner la loi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est ce qu'on appelait en français les avocats marrons. J'ai jamais compris pourquoi on les appelle marrons. Oui, quelqu'un sait pourquoi on les appelle les avocats marrons? Il doit y avoir une origine littéraire là derrière. Enfin, on parle peut-être de... C'est la crème des avocats. En tout cas, pour revenir au sujet, et vous connaissez la Mishnah du Pirkei Avot qui met en évidence que le juge ne doit jamais entrer dans la peau d'un avocat. Al ta'as ratzmecha ke olche adayanim. Olche adayanim, c'est les avocats. Olerdin. Okay? Et le juge reçoit une consigne très claire. Ne te fais pas avocat. Tu dois juger, tu ne dois pas plaider. Le juge n'a pas à être ou accusateur ou défenseur. Il doit juger. Et il doit chercher le mishpat tzedek, le jugement de vérité, et non pas la légalité. Ça, c'est les avocats qui plaident. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? On cherche le mishpat qui soit compatible avec le tzedek. Mais à qui est confié le critère du CD de la justice? Aux juges, pas aux avocats. Et le drame, c'est quand dans une société, par ancienneté ou par hiérarchie, ce sont des avocats qu'on nomme comme juges. C'est tout un problème. Le grand conflit entre la civilisation hébraïque et la civilisation plus romaine encore que grecque. Parce que la civilisation grecque, il y avait quand même ce souci, cette intuition du souci de distinguer entre la justice et le droit. Tandis que chez les Romains, ça s'identifie. Eh bien, vous n'avez pas Cicéron, c'est quand même pas... j'ai oublié comment il s'appelle. Les Philippiques, qui c'est? Demosthène. Bon. En tout cas, pour revenir au sujet, nous allons voir ce que dit Rashi sur cette question. Alors, prenez le premier Rashi. Rashi va nous expliquer le mot de Shoftim. Et Shoftim, ça veut dire les juges. Et qu'est-ce que dit Rashi? Suivez avec moi. Dayanim, il change le mot. Au lieu de nous dire juge Shoftim, il nous dit juge Dayanim, Aposkim, qui décide et Tadin du jugement. Qu'est-ce que Rashi nous a expliqué? C'est ça un juge? Un juge, c'est un juge qui décide du jugement. Oui, c'est un des Rashi les plus difficiles. Enfin, c'est un des cas des Rashi difficiles. Je vous ai cité ça une fois. Je l'avais reçu d'un Talmid Chacham qui est originaire de Colmar. Je vais vous dire pourquoi. Il s'appelait d'ailleurs Klein. Vous savez, la grande famille Klein de Colmar. Vous ne connaissez pas les grands juristes, talmudistes. Ah, il disait ça sous forme de blague, mais ensuite j'ai étudié, j'ai trouvé la source, c'était pas une blague. Voilà, chaque fois que Rashi dit, dans son commentaire du Talmud, il prend un mot du Talmud, il explique et il dit « Kelomar, c'est comme pour dire, de point ouvrir les guillemets. » Alors, c'est très difficile, ça semble facile. Rashi veut expliquer le sens sémantique. « Kelomar, c'est-à-dire, comme pour dire, en réalité, ou bien c'est ça que ça veut dire, ou bien c'est pas ça que ça veut dire. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « comme pour dire » ? Vous avez compris ? Ce clomard de Rashi, c'est très difficile. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'explication qu'il donne et qui semble tout simplement traduire le mot qu'il va interpréter est en réalité un sens autre que simplement la traduction du mot. C'est clair ? Alors, il me racontait ce Talmid Chacham de Colmar, qu'à la yeshiva de Colmar, on disait « Kulomar ». Alors, ça veut dire « ce Rashi est tout entier amer okay. ».« Kulomar ». Alors, je ne sais pas si c'est comme ça les gens de Colmar. Enfin, moi, j'ai un souvenir de Colmar qui est très amer. Je suis rentré avec l'armée française. J'étais pas à la tête, hein, j'étais dedans. Pendant la dernière guerre, un Shabbat matin, dans Colmar, pour la libération de Colmar. Et alors, on venait après, il faisait un froid terrible. Alors, j'ai découvert la seule synagogue au monde où il y a un clocher avec des cloches. Je ne sais pas si il y a des gens de Colmar. Si un jour vous visitez Colmar, vous aurez cette surprise. Il y a un petit clocher avec une cloche dans ces rues de Colmar. Non, c'est vrai. Tu n'y as jamais été. Il y a beaucoup de cloches. Et alors, les Allemands avaient transformé la synagogue en un hangar pour le théâtre aux armées de la Wehrmacht. Bon, on est rentré dans la ville. Vers 11h du matin, les Juifs ont eu la permission d'aller à la synagogue pour faire la prière du Shabbat. On était, je sais pas, une vingtaine de Juifs dans le bataillon. On a eu la permission d'être allé. On a débarrassé, c'était plein d'affiches, enfin de décors, tout ça. On a débarrassé un peu au milieu. On a commencé à faire la prière. Et il y a un Allemand qui était caché à Colmar, qui vient avec un Sefer Torah. Il dit, voilà, quand les Juifs sont partis de la ville, je suis allé à la synagogue, j'ai pris ça, je l'ai caché dans un placard que j'ai caché avec une photo de Hitler. Ce qui fait que la Gestapo a perquisitionné chez lui, mais n'a pas enlevé la photo de Hitler. Il dit, bon, c'est à vous, je vous le rends. Alors on a fait la prière avec un Sefer Torah qui nous a été amené par un Allemand clandestin, résistant, qui était caché à Colmar. Vous ne vous attendiez pas à une histoire pareille. Alors en tout cas, le Kelomar de Kulomar, j'ai finalement trouvé une source. Et je vous dis ça très très rapidement, c'est une expression talmudique, c'est pas une blague ce Kulomar, c'est que quand il y a une marloquette, c'est entre deux maîtres. Alors un maître, ça se dit dans le langage talmudique, Umor, Umar. Vous savez cela? Mor, c'est en prononciation sfarad, et mar, c'est en prononciation ashkenaz. Là, il y a un paradoxe. Normalement, les ashkenaz disent O, les sfarad disent A, mais là, les sfaradim disent amar, mor, et les ashkenaz disent amar, mar. Non, je ne traduis pas, mais pour ceux qui lisent le Talmud. Et alors, la discussion, c'est entre mar et mar. Alors, quand c'est cool ou mar, on ne sait pas lequel des deux a raison. Vous avez compris le sens qu'il y a derrière. Je referme la parenthèse, parce que sinon je vous donnerai trop d'exemples et ça vous prendrait trop de temps. Alors, donc ce Rashi, il est cool au mar. Qui peut expliquer ce que veut dire Rashi? En même temps, ça vous éclaire une question de sémantique de l'hébreu israélien. Quand on dit le Bet HaMishpat ou le Bet Din, on ne parle pas du même tribunal. Le Bet HaMishpat, c'est le tribunal civil. Le Bet Din, c'est le tribunal rabbinique. Le Shofet, c'est le juge au tribunal civil. Le Dayan, c'est le juge au tribunal rabbinique. Est-ce que ça vous aide à trouver qu'est-ce que veut dire Rashi? Veshaftu et Aham. Non, c'est pas. Dayanim, Aposkim et Adin. Shofim,
Dayanim. Dis les deux.
Et non. Regardez Rashi. Rashi veut expliquer Shoftim. Il me dit Shoftim, c'est pas les Shoftim, c'est des Dayanim. C'est clair? Tu sais? Mais ce qui est difficile, c'est ce qu'il ajoute. Aposke metadin, c'est la définition pure et simple. C'est ce qu'on appelle en français une tautologie, hein? Un dialèle, je vais vous dire ça. Pas pléonasme, mais vous avez compris. Il se répète. Alors il veut dire Dayanim, ce sont des juges qui tranchent d'après la justice, pas d'après la légalité, d'après le din. Pas d'après le Mishpat. Est-ce que c'est clair? Ça va dans le sens de ce que dit le verset Mishpat Tzedek. Vous avez bien compris en hébreu? C'est clair pour tout le monde? Vous avez compris la différence?
Chaque fois tranché.
Ah oui, ça d'autre part. Ça d'autre part, nous avons une Mishnah tout entière pour ça. Et vous, Metunim Badin. Là, je pense que vous faites allusion à cela. La Mishnah dit. Les traducteurs français traduisent « Soyez circonspects dans le jugement ». C'est encore une platitude. Un juge qui n'est pas attentif à son jugement, c'est pas un juge pour aller vendre des cacahuètes, cachées autant que possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Soyez circonspects dans le jugement » Est-ce qu'on a donné des consignes pareilles à un juge? Un juge, c'est un personnage des plus respectables de la société, censément, enfin, en majorité. Et je me rappelle dans ma communauté où j'étais dans ma jeunesse, quand le Dayan passait dans la rue, c'est tout juste si les commerçants ne fermaient pas le rideau pour aller lui embrasser la main. Le Dayan, c'était. En Tunisie, je pense que c'était la même chose. Oui. Et au Maroc, évidemment, quand le Dayan passait dans la rue, c'était. Ou bien quand le Kadi chez les Arabes, le juge dans la communauté, c'est la vérité sur terre. Bon, il y a des juges marrons aussi, je suppose, mais c'est vraiment une minorité. Les avocats, c'est différent. Il n'y a pas d'avocat dans votre famille, j'espère. Alors je reviens au. Il y a des avocats intègres. Il y a aussi des commerçants intègres, ne croyez pas. Bon, je reviens au sujet. Eh bien, est-ce qu'on a à dire à un juge, soit un bon juge, soit circonspect dans le jugement? Alors le commentaire explique. Il faut comprendre le mot de metunim, netunim, et vous metunim badin, le sens étymologique. L'iyot matoun, que c'est matoun? J'entends pas. Un seul à la fois et parlez fort. Hein? Matoun. Ça veut dire aussi modéré, mais c'est un sens second. Matoun. Hamtana, que c'est hamtana? Attends. Matoun. Plus que patient. Tout le monde n'existe pas en français. Quelqu'un qui prend son temps avant de donner une décision. Comment ça s'appelle? Alors c'est ça que veut dire le traducteur en disant circonspect. Mais le sens s'est perdu. Et l'iot matoun, c'est par exemple être, non pas être lent, mais être
pondéré.
Pondéré, très bien, c'est mieux. Bon, mais vous voyez qu'il faut expliquer. Le mot ne donne pas tellement directement le sens. Okay? Parce que pondéré renvoie à l'idée de poids. Je sais bien qu'en général, les juges sont pondérés. Et vous, metounim badin, ça veut dire. Prenez le temps de décider et ne décidez pas avant d'être sûr de ce que vous dites. Et des fois, un juge prend beaucoup de temps avant de décider. En particulier, je vais vous dire, dans la législation talmudique, si un juge se trompe dans Dine Nefashot, c'est-à-dire dans un procès où le prévenu risque, s'il est accusé d'être passible de prison, on le mettait à mort, le juge. Vous ne savez pas ça. Un juge n'a pas le droit de se tromper. Et s'il se trompe, c'est qu'il est, je vous ai souvent parlé de ça de différentes manières. Quelqu'un qui se trompe, c'est un trompeur. Et un juge trompeur n'a pas le droit de rester en vie. Bon, c'est un niveau de civilisation que les modernes ont perdu. Je me rappelle au Moyen-Âge européen, je vous donne deux exemples. Les généraux qui perdaient une guerre étaient fusillés. Plus que du regard. Hein. Fusillés, mommage. Un général ne perd pas la guerre. S'il perd la guerre, c'est que il a je cherche un mot en français, ça m'échappe. Un imposteur. Hein. Puis chez les druides, lorsque les druides formaient leurs disciples, les disciples s'initiaient à apprendre par cœur des dizaines de milliers de vers dans les ballades des druides. Et si un disciple de druide se trompait d'un mot, il était mis à mort. Parce que quelqu'un qui doit transmettre la tradition n'a pas le droit de se tromper. Vous voyez à quel niveau d'exigence il y avait à ce stade de civilisation. Ça s'est perdu dans le monde moderne. Okay? Mais ça va dans ce sens-là. Alors, un juge était impliqué dans son jugement, lui personnellement. Parce que s'il se trompe, tu sais pourquoi ? Avant de prendre une décision, surtout de risquer de condamner quelqu'un à mort, les juges devaient jeûner. Et c'était à jeun, après une journée de jeûne, qu'ils donnaient leur décision. Et ce n'est qu'après la décision qu'ils avaient le droit de manger. Je ne sais pas si vous savez ça, okay ? La raison pour laquelle le procès de Jésus était invraisemblable, parce qu'il était censé se passer un jour de Pessah, on ne jeûne pas le jour de Pessah. Alors donc, l'idée que ce procès ait lieu un jour de Pâques, ça suffit pour disqualifier les sources en question. D'ailleurs, les chrétiens le savent, ils sont très, très embêtés. D'autant plus que, vous savez que le dimanche qui précède s'appelle dimanche des rameaux. Et les chrétiens se baladent avec des rameaux et des palmes. Et, or les palmes, c'est à Soukhot, c'est pas à Pessah. Parce qu'il y a beaucoup d'invraisemblances, mais intentionnelles. Je suis persuadé, bon, c'est une parenthèse que j'ouvre, les rédacteurs des évangiles ont mis des serrures et des clés sur les serrures pour savoir que celui qui a des yeux comprenne. C'est moi qui interprète comme ça. Okay? Et il y a des messages codés. Par exemple, dans l'histoire de la philosophie, on sait qu'il y a des inadvertances, quelques-unes chaque fois, chez les grands philosophes. Or, un grand philosophe ne peut pas être pris en inadvertance logique. Donc c'est un message qui est caché là-dedans. Je ne veux pas ouvrir des parenthèses, mais enfin, je pourrais vous le citer. Chez Descartes, il y a une énorme invraisemblance. Chez Kant, chez Spinoza. Et ça veut dire que c'est un petit clin d'œil. Ça veut dire faire attention, on cherche qu'est-ce qu'il y a là derrière. Parce qu'on ne prend pas un grand philosophe en défaut de logique. Pas plus qu'on prend un grand mathématicien en défaut sur une addition. Alors si un grand mathématicien vous donne dans une page de logarithme une erreur d'addition, il faut être attentif. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous avez compris ce que je veux dire ? Bon. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça ? C'est l'idée qu'un juge se trompe. Okay ? Vous voyez, le juge est impliqué dans son jugement. Parce que la vérité sur terre dépend de lui. La vérité sur terre dépend de trois facteurs. Qu'on connaisse la loi, que les témoins soient véridiques et que le juge soit véridique. Alors ici, nous avons deux postulats. Nul n'est censé ignorer la loi. Les juges sont censés connaître la loi, les témoins sont censés être véridiques, la législation des faux témoins est terrible dans la Bible. Okay? Et je vais aussi citer un verset sur les faux témoins. Enfin, c'est même pas le mot de faux témoins, sur les témoins de mensonges, disons. Et puis, l'intégrité des juges. Si le témoignage est authentique, la loi est connue, et le juge fausse le jugement, tout est faussé dans l'histoire terrestre de la vérité sur terre. Mais la responsabilité du juge. C'est pourquoi on ne nommait comme juge que des sages qui avaient dépassé 70 ans. C'est-à-dire qui étaient censés être déjà dégagés de tout intérêt des instincts de la vie, des passions, comme on dit en français. Okay? Alors aujourd'hui, on nomme les juges sur diplôme. Et alors on arrive à des sociétés où la justice est bafouée à cause des juges. Je vous donnais, avant de... qu'est-ce que je vous ai annoncé, de quoi je voulais vous parler ? Ah oui, pour les témoins. Et rappelez-moi, que je vous cite un commentaire du début du livre de Ruth. Rappelez-moi ça tout de suite. Les érudits, là, ont déjà deviné de quoi je vais parler. Mais, à propos des témoins, le verset dit à propos du témoin que Le juge ne doit pas accepter de shohad. Comment on dit en français shohad? C'est cadeau des poudrins, si vous voulez. Bon. Et bon, ça c'était un stade où le cadeau par excellence, c'était les pots de vin, c'était des pots de vin. Aujourd'hui, on envoie de la crème de marron pour les avocats, des marrons glacés. Mais le verset dit qui a shohad, parce que le pot de vin, yéraver, aene, hachamim, visalef, dibret, tzadikim. Parce que le pot de vin rend aveugle les yeux des sages et dénature les paroles des justes. Et alors on a l'habitude d'appliquer ce verset au juge, mais ce verset s'applique au témoin. Parce que qu'est-ce que c'est un témoin? C'est quelqu'un qui est capable de dire ce qu'il a vu. Et alors si le juge a reçu un pot de vin, le témoignage du témoin est falsifié, parce que le juge a reçu un pot de vin. Vous avez compris? Et alors, j'écris pas au tableau, mais visualisez. Comment on dit un témoin?
Aïd.
Il y a Aïn et Dalet. Il y a Aver, Aïné, Hachamim, Visalef, Dibre, Tzadikim. Le juge, c'est celui qui dit ce qu'il a vu. Il s'appelle Aïd. Ça va de l'œil à la parole. Aïd, Aïn, Davar. Vous avez vu en hébreu? Effectivement, une des choses les plus difficiles au monde, c'est d'être un témoin de vérité. J'ai l'habitude d'expliquer ça de cette manière. Quand on lit les journaux, on s'aperçoit que ceux dont la profession est d'être témoin n'arrivent pas à dire la vérité. Vous lisez trois journaux sur le même événement, c'est trois événements différents. Vous avez remarqué ça? Et je vais élargir ça. Être témoin, ne serait-ce que pour un journaliste, c'est la chose la plus difficile au monde. D'arriver à savoir dire ce qu'on a vu. D'abord, il faut savoir voir, et il faut savoir parler, et il faut savoir dire ce qu'on a vu. Vous comprenez pourquoi dans les 10 commandements il y a l'interdiction du faux témoignage? Parce que celui qui fait un faux témoignage met en question le sens de l'histoire du monde. Parce que ça dépend de lui. Surtout dans les réconstitutions de, comme on dit en français, les réconstitutions de crimes ou de. Mais il y a un mot plus général. Réconstitution des faits. Voilà. Vous savez que la législation des témoins était extraordinaire. Si le juge a un doute concernant un témoin, il doit interroger le témoin avec une minutie dont je vous donne un exemple. S'il dit ça s'est passé sous un arbre, le juge doit lui demander combien de feuilles il y avait dans l'arbre. Je ne sais pas si vous réalisez, ça dépasse l'imagination. Ça veut dire qu'il faut coincer le témoin jusqu'à être sûr que ce n'est pas un faux témoin. Et si c'est un faux témoin, il est condamné à la peine à laquelle on aurait condamné celui qui aurait été condamné. Je ne sais pas si c'est clair. Garasitalo, kacher zamam laasot. Bon, voilà donc ce problème-là, déjà pour ce premier rachi. On va avoir un deuxième rachi à ce sujet. Prenez le rachi sur Veshaftu et Taha Mishpat Tzedek. Et ils jugeront le peuple d'un jugement de justice. Rachi sur la fin du verset. Alors qu'est-ce que dit rachi? Lisez avec moi. Mene Dayani Mumchim, nomme des juges compétents. Betsadikim est juste, Nishpot Tzedek, pour juger en vérité de justice. Là encore, Rachid, nous semble nous dire ce que veut dire le verset. Il faut, pour aboutir à ce que dit le verset, il faut nommer des juges intègres. Rachid nous dit que ça veut dire, et jugeront le peuple en jugement de vérité de justice, il veut dire il faut nommer des juges intègres. Ça va de soi. Une des sources de Rachid, c'est, je vous le dis en hébreu, Beror lecha dayanim hagunim. Choisis-toi des juges convenables. Et ça, la source est dans le Midrash. Alors, si le Midrash connaît cette catégorie, il y a des juges convenables et il y a des juges pas convenables. C'est dangereux, ça. C'est que le Midrash nous prévient. Il faut être averti qu'il y a des juges pas convenables. Je vous dis ça en société israélienne surtout. Bon, le Bat Mishpat, il y a des juges corrompus. Bon, ça se passe en Italie, ça se passe là où vous voudrez, mais vous suivez la politique interplanétaire, mais qu'il y ait des Dayanim corrompus, ça donne à réfléchir. Alors le Midrash le sait. Ici, vous avez Yahaver, Ene Hachamim, Bissalef, Dibre Tzadikim, Lotakir Panim, Lotikar Shochal, Tzedek, 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 tu rechercheras la justice de la justice. Vous avez au verset 20, je vais vous dire la fin. Veyarashta et Aaretz, Asher Hashem Kran Tunecha. Alors, tu hériteras du pays que Dieu, Hashem, ton Dieu, te donne. Ça veut dire, si on a des juges qui jugent mal, on n'a pas droit au pays. Regardez le lien que je suis en train de vous établir entre les Dayanim, qui reçoivent des budgets du gouvernement, et le fait que leur position est qu'il faut donner la terre aux Arabes. Vous avez remarqué ça? Regardez, c'est écrit dans le texte. J'ai cité personne. Hein. Je parlais que de lui. Vous avez compris de qui je veux parler. Regardez, regardez à quel point c'est énorme. Qui a Shocha, Diave, Aene, Harame, Misa, Yuvel, Sadikim, Tzedek, Tzedek, Turdov, Lema'an, Tihye, Veyarashta et Aret. Et qu'est-ce que dit Rashi? Choisis-toi des juges intègres. Alors oui, c'est énorme, cette espèce de précision du texte. C'est-à-dire la Torah, c'est à l'avance. Qu'est-ce qui corrompt une société? Et ça met en jeu son histoire même. Ah oui, je crois qu'on ne peut pas rester impassible devant ce qu'on lit dans les journaux de jour en jour, hein, toutes les tractations entre Chasse et le gouvernement sur des affaires de jugement. Vous avez remarqué tout ça? C'est énorme. Alors rappelez-vous l'expression « Beror lecha dayanim hagunim ». Alors il y a des dayanim qui ne sont pas hagunim. Donc, et il ne faut pas leur souhaiter que ce que le texte prévoit, ça leur arrive, mais il y a ouver en echachamim, visalev, yoresadikim. Quand vous voyez quelqu'un déjà porter des lunettes noires parce que sa vue baisse et qui commence à bredouiller parce que, méfiez-vous, c'est écrit. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire?
Je vous ai demandé pourquoi la répétition de Tzedek.
Oui, la justice de la justice. C'est, bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais ça fait le tir d'eau. Il y a beaucoup de Mishnayot dans le Pirkei Avot qui posent la question comme ça. Ezohi derech yeshara sheyavor lo adam. Quelle est la voie droite que l'homme doit choisir? C'est une question difficile. Quelle est la voie droite que l'homme doit choisir? La voie droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs voies droites. Alors de là, on apprend qu'il y a plusieurs voies droites et qu'il faut un critère pour savoir laquelle il faut choisir. Et la Mishnah répond Shehi Tiferet l'Eroséa, mais Tiferet l'Ominaada. Ça veut dire, c'est un choix de conduite qui est agréé aux yeux de Dieu et des hommes. Je vais expliquer l'expression. Ça veut dire, il y a différentes décisions possibles, vraies. Il faut décider laquelle on prend à cause des implications et des conséquences. Et alors, il faut vraiment une inspiration, en fait, inspirer pour savoir parmi les différentes décisions vraies. Pas seulement légal, mais vrai. Et c'est le problème du Talmud. Il faut choisir entre différentes décisions de la halakha, de la règle, qui sont toutes paroles du Dieu vivant. Mais parmi toutes ces décisions possibles, il faut en choisir une qui sera la règle à suivre. Halakha le maase. Vous voyez? Tzachen, vesechel tov, be'en Elohim ve'adam. Et que nous ayons grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Alors quelqu'un qui décide uniquement d'après ce qu'il lui pense être le jugement de Dieu, mais il ne tient pas compte du tout du jugement des hommes, ou l'inverse, qui est plus grave, quelqu'un qui décide uniquement à cause de l'opinion des hommes, l'opinion publique comme on dit, et qui ne pense pas au jugement de Dieu, alors c'est ça un juge, pas intègre. Bon, c'était une bonne question, mais j'espère que la réponse est suffisamment claire, parce que c'est très vaste.
Mais les hommes, c'est-à-dire des passions
des hommes? Ah oui, des hommes. Ça veut dire, par exemple, nous avons une règle dans le Talmud. Un tribunal rabbinique authentique a pris une décision. Et puis finalement, les rabbins en poste dans cette génération, de notre temps, ce serait apparemment les grands rabbins de Rabbanout Arachit, qui sont ceux qui seraient habilités. Bon, comme ils sont sadducéens depuis les dernières élections, et nous sommes pharisiens, alors vous avez compris l'analogie historique. Bon, je referme la parenthèse. Alors les responsables de la génération disent, nous jugeons que la décision qui a été prise ne peut pas être supporté par le peuple.